So I'm happy to introduce Naveen Kanalu, a PhD student at the UCLA in California. He'll be speaking about Canada, please.
Je tiens à remercier les organisateurs du colloque pour cette opportunité de présenter ma communication. Du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, ça concerne une problématique qui relève ou qui a comme point de départ une imaginaire populaire, un imaginaire populaire, mais aussi une idée que nous avons dans l'histoire littéraire du Canada aujourd'hui, qui est que Pampa, qui est un des poètes du 10e siècle, est normalement appelé très souvent Adi Kavi, comme le premier poète. Donc ça fait résonance, écho avec le terme en sanskrit pour Valmiki. Mais néanmoins, nous savons que Pampa n'était pas comme Valmiki un poète mythique, donc ce n'est pas un mythe de la première fois que le kavya, ou même un shloka, a été composé en Canada. Donc ce qui m'intéressait, c'était de voir comment cette idée, est-ce que cette idée déjà est nouvelle, est-ce que c'est une idée moderne qui a été construite au 19e siècle à partir de la philologie en Canada, ou est-ce que c'était une idée préexistante déjà à l'époque du Nadu Kannada ou du Moya Kannada. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de développer ce lien en regardant Pampa comme cette figure fondateur, voir comment est-ce que l'histoire littéraire a été construite pour le Canada au 19e et surtout au début du 20e siècle. Même si la philologie Canada est une sorte de philologie mineure dans le contexte de l'ensemble de la littérature indienne et surtout de l'indianisme tel qu'on le connaît en Occident, c'est surtout parce que très peu de textes de Canada ont été traduits dans les langues occidentales. Dans le Canada lui-même, nous avons une très riche réflexion sur ces questions. Donc je vais le faire développer ma problématique en trois temps. Premièrement, je vais analyser l'œuvre de Pampa et je vais le contextualiser un peu dans la période dans laquelle il se trouve. Ensuite, je vais passer à la reconstruction de l'histoire littéraire telle qu'elle a été faite au 19e siècle, surtout à partir des Lakshana, des textes de Lakshana, mais aussi des Kavi Prashasti par lesquels on a pu comprendre est-ce qu'il y avait un Pampa ou deux Pampa, parce qu'il y a non seulement un Adi Pampa, mais il y a aussi un Abhinava Pampa dans le Canada. Et finalement, par la suite, je vais arriver à par le rapport entre la philologie et l'histoire littéraire, j'aimerais bien arriver à la question de l'ontologie historique. Donc, au lieu de prendre l'histoire littéraire moderne, qui est développée à partir de la philologie en tant qu'une science historique, est-ce qu'on peut penser à la pluralité, à des manières plurielles dans lesquelles le mémoire et la tradition a été conservée avant et une conservation que nous pouvons encore rappeler pour comprendre l'historicité même de la littérature au-delà de l'histoire littéraire. Donc pour le dire, Pampa est considéré comme Adi Kavi, mais dans le contexte canadien, nous avons déjà des textes qui, en quelque sorte, préexistent les deux Champu Kavya, donc Kavya en Champu, en vers et prose, de Pampa, qui ont été composés vers 941 de notre ère. Donc, nous avons deux Champu qu'il dit qu'il a composé lui-même dans l'intervalle de quelques mois, donc le Adi Puranam et le Vikramarjuna Vijayam. Le Adi Puranam, Pampa était un poète jaina, il a composé une hagiographie du premier Tirthankara Jaina de Vrushabhanatha, qu'il a intitulé Adi Puranam, qui existait déjà en sanskrit, et le Vikramarjuna Vijayam, ou le Victoire d'Arjuna le Puissant, qui est une version du Mahabharata. Donc, c'est la première version que nous avons. Très souvent, l'histoire littéraire nous dit qu'à la suite, un autre poète, Rana, du fin 10e, début 11e siècle, il composera par la suite un autre champu qui s'appelle Sahasa Bhima Vijayam. Mais avant Pampa, nous avons au moins deux textes qui existent, pour, même s'il y a une longue tradition de la composition de poésie qu'on trouve dans les inscriptions, mais aussi dans les fragments. En tant que textes qui existent, nous avons le Kaviraja Margam de Sri Vijaya, qui a été composé vers 875 dans le cour Rashtrakuta de Drupatunga Amoghavarsha. Mais comme c'est un Lakshana Granta, ce n'est pas Lakshya, on ne peut le considérer comme la première œuvre littéraire en Canada. Au moins, ce n'est pas dans ce sens que l'histoire littéraire moderne l'a compris. Mais il y a aussi un autre texte qui est découvert un peu plus tard, au début du XXe siècle, qui est le Gadya Kavya, ou le Kavya en prose, de Shiva Kottiacharya, qui s'appelle Vaddarathane. Il y a eu beaucoup de débats sur la datation exacte de Vaddarathane, qui sont des récits jaina, mais aujourd'hui, la date qui est normalement considérée comme étant certaine, c'est environ 920 de notre ère. Donc, en ce sens, on dirait que même si c'est un Gadya Kavya qui est très rare en Canada, peut-être, pourquoi pas, considérer Shiva Kottiacharya comme le premier poète du Canada. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une raison pour considérer Pampa lui-même comme le premier poète? Donc, non seulement Pampa est considéré comme le premier poète, c'est le Vikramarjuna Vijayam qui a été écrit à la suite de Adi Purana, qui est très souvent vu comme le premier Kavya. Très clairement, dans cette histoire de Mahabharata, qui n'est pas tout simplement une retraduction du Mahabharata de Vyasa, même si Pampa lui-même nous dit qu'il raconte en quelque sorte le Mahabharata dans son entier, le Samasta Bharatam, même si cette histoire est très très longue et vaste. Mais ce qu'il nous dit dans le Vikramarjuna Vijayam, c'est qu'il dit Belaguven illi laukikamam, c'est-à-dire qu'il éclaire le laukika ou d'ici-bas dans ce texte, alors qu'il a éclairé le alaukika dans le Adi Purana. Si on prend cela en compte, on dirait que le Adi Puranam a été composé avant même le Vikramarjuna Vijayam. Lorsqu'on vient à la question de l'histoire littéraire du Canada, c'est la périodisation que nous avons aujourd'hui, une périodisation qui a été établie au 19e siècle, qui a peu changé, même si c'est une périodisation historique qui est basé sur l'affiliation principale des différents poètes, l'affiliation religieuse. Donc, nous avons cette distinction entre la période jaina, qui date, les historiens de la littérature disent que c'est entre le 9e et le 12e siècle, et par la suite, c'est Lingayata ou Virashaiva, comme la plupart des poètes composés des Vachana. Et puis, Vaishnava, nous avons... aujourd'hui, nous retenons le terme Vaishnava proposé par Lewis et Edward Rice au 19e siècle, alors qu'au début du 20e siècle, le premier savant canadien, R. Narasimhacharya, lui, il proposa plutôt l'idée d'une période brahmana, et finalement, on arrive à la question de la modernité. Donc, dans ce cadre de périodisation qui va de soi avec la philologie, avec l'étude critique des textes, donc au moins dans le contexte Canada, je ne sais pas si on peut le généraliser pour la philologie moderne en général, l'intérêt va directement avec la création d'une histoire littéraire, une histoire linéaire et téléologique qui sera produite, qui nous donnera une autre perception de, du passé et aussi la façon dans laquelle le passé a été compris. Donc, dans le 19e siècle, nous avons au moins quatre différents types de tentatives. Donc, Ferdinand Kittel, qui était un missionnaire protestant et très souvent connu pour son premier dictionnaire du Canada, il a au moins composé trois livres. Le premier en 1866, Halegannada Sankshipta Vyakarana, un grammaire bref de l'ancien Canada. Mais le premier a vraiment développé une sorte d'anthologie ou une version de l'histoire littéraire à partir des œuvres choisies. C'était W.G. Booth en 1868 dans son Canary's Poetical Anthology. Et Ferdinand Kittel, il édita pour la première fois un texte Canada, Nagavarmana Kannada Chandasu, en 1875, et plus tard un autre texte sur le Vachanakaras. Donc, comment est-ce que, dans ce contexte, il traite l'idée du poète Pampa? Donc, ils font très souvent recours à des Kavi Prashasti. Donc, Kittel lui-même, qui est connu pour les éditions à la fois de Chandombudi et de Shabdamani Darpanam, dans son Nagavarma's Canary's Prosody, il reprend, peut-être pour la première fois, un vers du Shabdamani Darpanam de Keshiraja, où Keshiraja dit « Gajagana Gunanandiya Manasijana Asagana Chandrabhatta Gunavarma » Shri Vijayara Honnana Pampana Sujanottamsana Sumargamidarole Lakshyam. Et il le traduit, Kittel dit, after the above mentioned Sanskrita poets, follow the names of nine of his Karnata predecessors that bear an archaic stamp. It runs thus, in order that the world may praise this work, may it contain the imaginative power of Sankhavarma, the elegance of Shantivarma, the eminence of composition of Gunavarma, the brilliance of Manasija, the clever diction of Karanamma, the definition of Pampa, the knowledge of Chandrabhatta, the novelty of Punnamaya, and the intelligence of Gajankusha. En effet, selon Rice, qui composa plus tard A History of Canary's Literature, il y a une autre question qui semble être pertinente, c'est de savoir est-ce qu'il y a un Pampa ou deux. Donc, il vient avec, il dit dans son History of Canary's Literature, the Mula Pampa, as we learn from the Rama Kathavatara, was a different person from Abhinava Pampa. Donc, à un moment, il y a une difficulté de savoir est-ce qu'il y a un ou deux Pampa, parce qu'il y a le Pampa du 10e siècle qui a composé le Mahabharata, mais au 12e siècle, il y a aussi Nagachandra, dans le cours Hoysala, qui compose le Rama Katha, qui compose un Ramayana, peut-être un des premiers Ramayana, version de Ramayana en Canada, et il est connu comme Abhinava Pampa. Donc, c'est à ce point-là, en établissant une sorte d'origine, en pensant à des origines et des racines du Canada, mais en même temps essayant de distinguer entre ces deux personnages qui seront connus comme Pampa, mais non seulement comme Pampa, mais par plusieurs types de noms qui ont été connus au moins dans le Nadu Kannada, comme Hampa, Pampa, Hampa Deva, Guru Pampa, Pampuga, qu'il y a cette tentative. Donc, nous avons ce Mula Pampa, et Edward Rice lui-même le dit, « It is the practice of Canary's poets to preface their works, not only with invocations of the gods and of the saints of old time, but also with the praise of former poets. This enables us to place the poets in their relative chronological order. » Donc, c'est ici qu'ils prennent recours à des différents Kavi Prashasti, non seulement au texte de grammaire de Keshiraja, de Shabdamani Darpanam, qui a été déjà édité, mais surtout trois autres références que nous avons plus tardivement dans le Canada pour Pampa. Donc, le premier, c'est de Parshva Pandita en 1205. Le second, c'est dans le Punyasrava de Nagaraja en 1331 et dans un texte du poète Madhura 1385. Pour la première fois, ça nous apparaît le terme Adikavi. Donc, ce terme Adikavi qui est Mula Pampa, qui devient une sorte d'une manière d'établir le premier Pampa, est déjà présent dans la mémoire du Nadugannada ou du Moyen Canada. Donc, Nagaraja dans le Punyasrava dit Pasaripa Kannada ke Odeyunu Urvane Pampanu. Pour le Canada, il y a seulement un poète qui règne, c'est Pampa. Et par la suite, il nous explique les différents styles et caractéristiques de l'œuvre de Pampa. Mais c'est Madhura qui nous dit Adikavi Pampanu. Donc, c'est la seule référence que nous avons dans un contexte pré-moderne pour dire que Pampa, non seulement qu'il y avait un, mais il y avait deux Pampas, mais que surtout à la suite d'Abhinava Pampa, il y avait une tentative de penser à d'appeler le premier Pampa comme Adikavi. Mais néanmoins, est-ce que ça nous dit que forcément c'était le premier texte qui a été conservé en Canada? Parce que dans les textes même de Keshiraja ou d'autres, nous trouvons des citations, parfois pour le Lakshya, des poètes qu'on suppose ont été avant Pampa. Mais néanmoins, est-ce qu'une telle historicité, au-delà du fait même qu'on pensait à l'origine en quelconque, peut-être dans l'imaginaire de Valmiki pour le sanskrit, est-ce qu'il y avait une idée de penser à une linéarité historique? Et c'est là que j'arrive à une troisième partie qui me concerne, c'est l'histoire littéraire qui est aussi un aspect qui développe très tôt en Canada. Donc, le premier histoire littéraire, c'est de R. Narasimhacharya, Karnataka Kavicharite, qu'il a publié en trois volumes au début du XXe siècle. Et Edward P. Rice a publié en anglais, A History of Canary's Literature, et ce qui devient une sorte de textbook dans les années 60. Et plus tard, c'est le Kannada Sahitya Charitre de Ramshri Mugali. Donc, nous passons par l'histoire littéraire seulement en tant qu'une liste des poètes, donc une liste des poètes et les fameux vers de ces poètes, mais aussi des histoires des poètes qui sont fondées sur les Kavi Prashasti, vers une sorte de d'histoire de la littérature du Canada elle-même, donc une histoire qui serait expliquée par un historicisme quelconque, donc une ontologie historique qui est au fond même dans l'unité de chaque période, donc cette période Jaina qui était au début construite tout simplement par l'accumulation de nombre de poètes. Et c'est là que pose une question de l'histoire littéraire, est-ce qu'elle elle obscurcit en quelque sorte notre connaissance du passé, au sens non seulement du passé dans un sens positif, mais surtout la connaissance qu'avaient les savants dans le passé de ce qui était passé pour eux-mêmes. Donc si la construction et l'écriture de l'histoire littéraire, donc, tant dans les langues dites classiques, ce que nous appelons ici pour le Canada, comme pour le Canada vernaculaire, se tient du fait que l'histoire n'est pas ici tout simplement un récit. Donc, si on prend son terme en langue allemande, en tant que Geschichte, ce n'est pas seulement un récit, mais c'est surtout et avant tout un premier sens comme ce qui arrive, donc ce qui arrive au-delà de toute interprétation pour les hommes. Donc, ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui Geschichte, au sens propre, peut être reçu, mais ça peut aussi être changé dans différentes façons. Et c'est surtout dans la réception elle-même, donc dans la réception littéraire, qu'on peut changer, on peut modifier. En ce sens, donc, ce qui se passe, même si ce qui se passe reste dans le passé, est inchangé, la réception elle-même est toujours un événement à venir. La possibilité qu'elle contient sont les possibilités et modalités qui sont toujours de changement, qui ne se concernent que ce qui est à venir, le futur. Le préjugé donc de toute science historique et peut-être celle de la philologie en tant que science historique de la langue et de la littérature, au-delà de toute particularité, reste peut-être saisi dans le fait que lorsque nous ne pensons plus seulement au genre et à la forme littéraire, ce n'est pas seulement ce qui s'est déjà passé qui nous intéresse, mais surtout que en interprétant et en essayant de le comprendre, nous pouvons au moins changer la manière dans laquelle nous regardons le passé. Donc nous ne pouvons pas l'influencer en tant que tel. Donc ce que nous prenons souvent en tant que donnée historique est une donation immédiate qui inclut l'impossibilité d'une causalité de retour. C'est nécessaire d'un point de vue ontologique pour toute histoire, c'est-à-dire comment peut-il le passé d'une réalité qui reste toujours inchangeable et encore pertinent pour le réel en général. Et je pense que l'histoire littéraire, au moins dans une version qui a été établie au 19e siècle et qui continue à être la façon dans laquelle nous pensons encore à l'histoire littéraire du Canada, peut être changée. Et ce peut toujours être pertinent pour le réel, pour comprendre ce qui s'est passé. Si telle est la leçon générale qu'on peut prendre de toute ontologie historique, la problématique est encore plus féconde dans le cadre d'une histoire littéraire et la recherche des origines à laquelle une grande partie de la philologie moderne en Canada s'est consacrée. Pourquoi cherche-t-on les origines? Ne sont-ils que pauvres, tels que pensent Hegel dans l'autodéveloppement de l'esprit, ou bien est-ce que ce sont au cœur même de l'imaginaire d'une identité linguistique et culturelle? Dans l'histoire telle qu'elle a été reconstruite dans la littérature canada, ces difficultés sont issues des problèmes majeurs de penser la langue et sa culture, surtout à travers une accumulation ou même sédimentation des discours divergents, tels que ça a été adapté et développé à partir de l'édition et surtout à partir d'une structuration déterminante par la périodisation. Pour conclure, la tâche de l'histoire littéraire est-elle, dans les mots de Heidegger, ce qu'on peut lire dans les grands problèmes de phénoménologie, ici dans la traduction de Jean-François Curtine, il dit « La poésie n'est rien d'autre que l'élémentaire venir au mot, autrement dit l'être découvert de l'existence » comme être dans le monde. Avec ce qui est exprimé au Ausgesprochene, le monde devient seulement visible pour les autres qui auparavant étaient aveugles. L'Auslegung ou l'interprétation est l'explication ontologique de la langue à laquelle la philologie souhaite donner l'accès, est-elle également fondée dans une nécessité propre de l'histoire littéraire? La difficulté conceptuelle que nous aurons à traiter consiste pourtant dans le rapport entre l'historicité d'une part des textes prémodernes et l'historicisme implicite dans notre lecture de l'histoire littéraire. Si on accepte une version faible de l'historicisme, telle que la connaissance des hommes est toujours historiquement située, leur compréhension et leur connaissance reflètent toujours leur façon d'être historiquement située, la facticité de cet être situé est très souvent comprise en tant qu'historicité du sujet lui-même. Pourtant, parlant dans un langage phénoménologique, nous pouvons rejeter l'idée que la vérité en soi, donc au-delà de la compréhension et la connaissance, sont historiquement déterminées par notre situation. Si on pense que l'histoire littéraire et la philologie doivent donner l'accès à la vérité. La vérité de notre compréhension elle-même est relative aux conditions historiques dans lesquelles nous l'acquérons. Une telle idée contredirait aux positions prises par les philologues, car elle supposerait la perte de la vérité en tant que contenu idéal, ou pour le dire autrement, l'essence même qui persiste en dépit des itérations successives et historiques dans l'histoire. Néanmoins, pour nous, la connaissance des origines produites dans l'histoire littéraire est historiciste au sens fort du terme. précisément parce qu'elle est la vérité d'un discours engendré par des moyens de critique textuelle, le recueil des auteurs et la synthèse d'une unité historique qui présuppose implicitement la vérité historique idéale avec une certitude transhistorique. C'est-à-dire la compréhension que nous possédons aujourd'hui grâce à la reconstruction philologique et de la reconstruction de l'histoire littéraire et la vérité qu'une telle compréhension affirme être en tant que connaissance et sa vérité est relative au système de savoir que la science philologique a pris forme au XIXe siècle. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut rendre justice à l'historicité même de ces textes et de ces traditions? Est-ce qu'on peut toujours penser à une histoire littéraire qui peut nous éclairer non seulement par un point de vue dit objectif, mais est-ce qu'on peut arriver à une compréhension des temporalités et des historicités différentes que possèdent les textes dans différentes périodes? Je vous remercie de votre attention.